Bonjour à tous. Je vous invite à la prière pour les enfants et pour nous. Que la parole de Dieu fasse effet. Merci effectivement Seigneur pour cette paix que tu nous offres, que tu nous promets dans ta parole, que nous voulons continuer d'entendre, comprendre et surtout appliquer à notre vie. Donne-nous d'être humbles devant toi, pour pouvoir recevoir ce que tu veux nous dire encore ce matin. Nous te prions aussi pour les enfants, que tu puisses les accompagner dans leur cheminement aussi avec toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon ? À partir de quand peut-on dire que l'on connaît quelqu'un ? Vous connaissez peut-être ce jeu, qui est-ce ? À partir de quand peut-on dire que l'on connaît quelqu'un ? Est-ce que c'est juste parce qu'on connaît la couleur de ses cheveux, s'il a des lunettes ou pas ? Imaginons que je lise une biographie du président de la République. Peut-on dire alors que je le connais ? Peut-on dire, oui, moi je connais le président, parce que j'ai lu une biographie. Évidemment, ce n'est pas en lisant des écrits sur une personne que nous la connaissons. Nous pouvons connaître des éléments de sa vie, mais pas la personne elle-même. Pour connaître quelqu'un, cela demande de passer du temps avec lui, de pouvoir échanger, vivre des choses ensemble dans plusieurs contextes. Autrement dit, pour connaître quelqu'un, il faut être en relation et interagir avec lui. Alors vous voyez certainement là où je veux en venir. Connaissez-vous Dieu ? Connaissez-vous Jésus ? C'est peut-être un peu bizarre de poser cette question dans une église. Alors on peut poser la question autrement. Jusqu'à quel point connaissez-vous Dieu ? Et jusqu'à quel point connaissez-vous Jésus ? La Bible raconte la relation entre Dieu et son peuple. En lisant les Écritures, nous pouvons ainsi connaître plein de choses sur Dieu. Mais comment le connaître personnellement ? Normalement, plus nous passons du temps avec une personne, plus nous apprenons à la connaître. Comment passer du temps avec Dieu ? Nous venons de dire que ce n'est pas seulement en lisant des écrits sur quelqu'un qu'on la connaît. Ce n'est pas en lisant la Bible seulement qu'on connaît Dieu. Alors comment passer du temps avec lui ? Même le fait d'écouter une prédication, cela ne permet pas forcément de faire connaissance avec lui. Écouter des heures de prédication, de conférences, d'enseignements, lire plusieurs chapitres de la Bible par jour, cela ne permet pas forcément de connaître Dieu personnellement. Alors comment faire ? Je suis pasteur, mais je ne suis pas détenteur de secrets. Je vous le dis, je ne suis pas détenteur de secrets, de mystères ou d'une sagesse particulière. Je ne suis pas plus illuminé que vous. Je suis un simple lecteur de la Bible, la parole de Dieu. Alors je vous propose de voir ensemble ce que cette parole nous enseigne à propos de la connaissance de Jésus. Je vous propose de lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 1 à 9. Nous lirons plus tard la suite, mais dans un premier temps, nous lisons les versets 1 à 9. Faut sélectionner le diapo normalement. Luc 9, 1 à 9. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser. car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Ce récit fait suite à d'autres passages de la Bible où Jésus enseigne et fait des miracles. Jésus a choisi 12 apôtres pour les former. Plus tard, ce sont eux qui vont construire l'Église, non pas le bâtiment, mais la communauté. Ce sont eux aussi qui vont rédiger, avec leurs collaborateurs, des lettres qui constitueront le Nouveau Testament. Dans notre récit, vient le moment où Jésus les envoie en stage, ou en apprentissage, en mission. Premièrement, les apôtres en stage. Jésus commence par les rassembler, puis il leur donne puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Mais il ne les envoie pas seulement faire des miracles. Leur première mission, en tout cas celle qui est mentionnée en premier à chaque fois, c'est de proclamer le royaume de Dieu. Vient ensuite la guérison des malades. Les miracles accompagnent l'enseignement. Mais c'est l'annonce du royaume qui est premier. Pour ce faire, ils doivent partir deux par deux et ne pas prendre de vêtements de rechange, ni de nourriture, ni même de l'argent. Les rabbis itinérants de l'époque vivaient un peu comme cela. Ils voyageaient et ils étaient reçus dans les maisons, dans des maisons pour être hébergés et nourris. Jésus leur demande de partir délibérément sans rien. Ils doivent compter sur le fait que Dieu pourvoira à leurs besoins à travers l'hospitalité de la population. Lorsque notre vie est au service de Dieu, lorsqu'il nous appelle à vivre avec lui et pour lui, nos pensées doivent être fixées sur lui avant tout, et non pas sur des considérations matérielles et terrestres en premier. Cela rejoint cette parole de Jésus que nous trouvons un peu plus loin au chapitre 12. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Dans ce chapitre 12 qui se trouve plus loin, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter et cela rejoint la paix dont Iria a parlé. Tant que nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, soyons en paix. Il s'occupe de nous. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire. Mais notre première pensée, activité, doit être de fixer les yeux vers lui, chercher d'abord son royaume, sa justice. Les apôtres sont appelés à expérimenter cela pendant un certain temps, en tout cas à l'expérimenter de manière concrète et intense. Le temps de leur mission, ils seront logés et nourris par ce que le Seigneur mettra sur leur route. Cependant, si dans un village, ils ne sont pas accueillis à cause de leur enseignement, ils ne doivent pas insister, mais juste partir en secouant la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux. À l'époque, les Juifs secouaient la poussière de leurs pieds lorsqu'ils quittaient une terre païenne, c'est-à-dire un territoire non-juif. Ce geste marquait la rupture. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Ce que Jésus demande ici est donc un geste très fort, même provocateur. Un juif qui quitte un village juif en secouant la poussière de ses pieds, cela signifie qu'il considère ce village comme étant païen, non juif. Jésus fait comprendre aux apôtres que son enseignement est la continuité et même la réalisation des prophéties de la Torah. Ceux qui refusent de voir en Jésus l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est comme s'ils négligeaient les écrits des prophètes, leurs propres ancêtres. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, il vient poursuivre la révélation de Dieu pour son peuple. On peut noter que si Jésus leur a demandé de faire ce geste, c'est parce que dans certains villages, les habitants refuseront d'accueillir les apôtres malgré les miracles qu'ils feront. Lorsqu'une personne ne veut rien entendre, elle n'entendra rien. Lorsqu'une personne ne veut pas entendre, elle n'entendra rien. La fin de ce premier passage se termine de manière étrange, je trouve, en tout cas à première lecture. Ce texte parle de l'envoi des apôtres en mission, en stage. Alors pourquoi Hérode apparaît-il à ce moment-là, tout à coup, presque comme un cheveu sur la soupe? Il nous dit qu'il s'interrogeait sur la personne de Jésus. Les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Pourquoi parler d'Hérode, le gouverneur, juste à ce moment-là? C'est parce que l'auteur veut nous montrer que les apôtres sont en train d'apprendre à connaître Jésus en le servant. Alors qu'Hérode, en comparaison, est en train de s'interroger sur qui est Jésus, mais il n'apprend pas à le connaître. Et s'il dit vouloir le voir, c'est pour assouvir une curiosité, plus que pour écouter le message de Jésus. Donc nous avons d'une part les apôtres qui apprennent à connaître Jésus, et d'autre part Hérode qui essaye de savoir qui c'est, mais il ne veut pas forcément apprendre à le connaître. Alors qu'ils sont en mission, les apôtres sont en train de connaître Jésus. C'est souvent dans le service pour Dieu que l'on apprend à le connaître davantage. C'est lorsque nous cherchons d'abord son royaume, sa justice, lorsque nous cherchons à proclamer et à annoncer la bonne nouvelle, nous apprenons ainsi à connaître davantage le Christ. Je vous invite à poursuivre la lecture. À première vue, nous pouvons avoir l'impression que ce qui suit concerne autre chose, mais en réalité, c'est la continuité. Versets 10 à 17. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il me semble que ce passage ne relate rien d'autre que la suite du stage. Les apôtres reviennent de leur mission et ils racontent ce qu'ils ont vécu à Jésus. Ils font une sorte de rapport de stage. Jésus les prend avec lui, il se met à l'écart, comme s'il voulait leur révéler quelque chose à eux spécifiquement. Mais voilà qu'une foule se joint à eux. Que fait Jésus ? Il change de plan, il reporte son projet et il accueille la foule. On peut noter la capacité de Jésus à être interrompu pour s'occuper de la foule. Personnellement, je n'aime pas être interrompu, surtout quand j'ai des idées en tête ou lorsque je suis en train de travailler sur l'ordinateur. C'est peut-être l'une des choses que j'aime le moins, être interrompu. Jésus a interrompu son projet de se mettre à l'écart avec ses disciples et il accueille la foule, une foule nombreuse, puisqu'il est question de 5000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les personnes âgées. Que fait-il avec elles ? Verset 11, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. il fait exactement les mêmes choses que les apôtres qu'il avait envoyés auparavant. Proclamer le royaume et guérir les malades. Les apôtres sont maintenant avec lui. Ils apprennent à ses côtés en voyant agir le maître. Mais la nuit tombe. Il faut s'occuper de la logistique. Il faut trouver des logements et de la nourriture. C'est intéressant, car pendant leur mission, ils n'avaient pas à se soucier de logement et de nourriture. Mais maintenant qu'ils sont revenus auprès de Jésus, ils se soucient des besoins matériels. Jésus répond en bon pédagogue. Il leur demande alors de leur donner eux-mêmes à manger à la foule. À ce moment-là, ils ne voient pas de solution viable. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Humainement parlant, cela ne suffit pas pour tout le monde. Il y aurait aussi la possibilité d'aller acheter de la nourriture pour tout le monde, mais c'est trop cher et ce n'est certainement pas possible, étant donné la quantité. D'un point de vue humain, il n'est pas possible de nourrir cette foule. Mais avec Jésus, tout est possible. Jésus demande aux apôtres de faire asseoir la foule et de partager les 5 pains et 2 poissons. Il y en a pour tous. Il en reste même 12 paniers. Ce chiffre 12, ce nombre 12 est symbolique. Il y a 12 tribus d'Israël, ainsi que 12 apôtres qui vont construire l'Église, le peuple de Dieu. Avec ces 12 paniers, on peut encore nourrir beaucoup de monde. 12 représentent le peuple de Dieu. Ce peuple peut encore s'agrandir, et il va s'agrandir, car les non-juifs y seront intégrés. Les disciples de Jésus vont continuer de proclamer le royaume et guérir des malades. On peut noter qu'avec ce miracle, les apôtres ont encore appris à connaître Jésus. Il nourrit la foule, c'est lui le pain de vie. Ils ont appris qu'avec lui, tout est possible, même lorsque notre raison nous dit le contraire. Je vous propose de boucler la boucle avec la suite. Il s'agit des versets 18 à 20. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question : Qui suis-je d'après les foules ? Ils répondirent : D'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre répondit : Le Messie de Dieu. Ce passage reprend beaucoup d'éléments des 2 paragraphes précédents. Il est question de l'identité de Jésus. À l'issue du stage de la mission, les apôtres connaissent-ils Jésus ? C'est mon 3e et dernier point. On peut noter que ce passage commence par Jésus qui souhaite se mettre à l'écart avec ses disciples. Cela commence exactement comme le paragraphe précédent. Lorsque Jésus veut se mettre à l'écart avec les apôtres, mais la foule les interrompt. Ici, la foule ne les interrompt pas. Il arrive à se mettre à l'écart avec ses apôtres. Ici, Jésus reprend en quelque sorte le cours de sa formation. Il les amène à l'écart, il prie avec eux et il leur demande qui il est. Les premières réponses sont exactement les mêmes réponses que celles du gouverneur Hérode au début du chapitre. Les gens disent que Jésus est Jean-Baptiste ou Élie ou un autre prophète revenu à la vie. Mais pour vous, qui suis-je ? Demande Jésus. Et nous pouvons recevoir cette même question pour nous chacun. Pour nous, pour vous, qui suis-je ? Pierre répond alors : Le Messie de Dieu. Ça y est, après être parti en mission, après avoir passé du temps avec lui, après l'avoir servi et fait sa volonté, après l'avoir obéi, après l'avoir vu défier la logique humaine, ils savent vraiment qui est Jésus. Le verset 18 mentionne bien que Jésus priait et que ses disciples étaient avec lui. Je pense qu'il y a un lien direct entre ce moment de prière et la connaissance de Jésus. Jésus a prié pour eux et ils ont certainement prié eux aussi. Connaître Jésus, ce n'est possible que si Dieu nous le fait connaître. C'est surnaturel. C'est l'action du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 17, nous avons le même événement qui nous est raconté, mais nous avons une petite info supplémentaire. Lorsque Pierre répond que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Jésus lui répond ceci. « Tu es heureux, Simon. » Oui, parce que Pierre, c'est aussi Simon. « Fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ce n'est pas une pensée humaine qui peut arriver à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Cela vient de la révélation de Dieu, une révélation personnelle. Nous pouvons connaître Jésus lorsque le Père nous le fait connaître. Cette connexion a lieu dans la prière, dans l'obéissance, dans le service pour Dieu. Connaître Jésus est aussi une question de foi. C'est par la foi que les apôtres sont partis en mission sans rien. Ils avaient foi que Jésus prendrait soin d'eux. C'est par la foi qu'ils ont obéi et distribué 5 pains et 2 poissons à plus de 5000 hommes. C'est par la foi qu'ils ont pu reconnaître Jésus comme leur Messie, le Fils de Dieu. Pour conclure, revenons à la question du début. Connaissez-vous Dieu ? Jusqu'à quel point connaissez-vous Dieu ? Avez-vous reçu cette révélation de sa part, comme quoi Jésus est bien le Fils de Dieu, l'envoyé, le Messie ? La confession de foi de l'apôtre, Pierre, marque le début d'une belle relation, une relation de confiance qui nous donne l'assurance que Dieu prend soin de nous, une relation où le Saint-Esprit est là et nous parle, nous guide. Nous aussi, en confessant sincèrement que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, cela marque le début d'une relation. Ce n'est pas toute la relation, ce n'est que le début. Nous n'avons pas à nous soucier avant tout des aspects logistiques de notre vie. Alors c'est important, ne négligeons pas le matériel, mais cela reste secondaire. Notre première préoccupation est de servir Dieu, c'est-à-dire lui obéir, selon ce que le Saint-Esprit nous donne de comprendre à travers sa parole, à travers des circonstances, à travers ce qu'il nous dit. Lui obéir, le servir, annoncer le royaume. Ce royaume est la promesse que notre vie se poursuivra auprès de lui. C'est une merveilleuse nouvelle et c'est pour cela qu'elle doit être partagée à tout prix. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que c'est toi qui te révèles à nous. C'est toi qui nous révèles Jésus comme étant le Messie, notre Seigneur. Et merci parce que si cela dépendait de nous, eh bien nous ne voudrions pas le reconnaître. Nous ne voudrions pas entendre parler de toi. Et merci parce que c'est toi qui viens à nous. C'est toi qui viens nous tendre la main et c'est ton esprit qui nous parle. C'est ton esprit qui vient nous révéler Jésus. Aide-nous à marcher avec toi, à être attentif à ton esprit, à te servir avant tout, en ayant confiance que tu es celui qui nous guide, celui qui prend soin de nous, qui prend soin de notre vie, notre famille, notre Église, c'est toi qui t'occupes de notre avenir. Aide-nous à garder nos yeux fixés en premier sur toi. Amen. Nous allons poursuivre avec le partage du pain et du vin, la Sainte Cène.